Vous écoutez
RMC.
J'accueille Fred Hermel. Bonsoir Fredo.
Alors, commençons par cette histoire.
Oh, ça va.
Laissez-le parler.
Non, mais c'est vrai. Hola, Chicos. C'est vrai. Jonathan a raison. J'ai été refoulé au premier abord à l'aventure. Depuis, ils ont fermé boutique. Il n'y a pas de hasard.
Quoi, t'as
appelé laisse pas rentrer Fred Hermel quelque part, en général, ça porte pas bonheur.
C'est ton réseau, quoi. T'as appelé qui, Macron?
Je ne dis rien. Simplement, c'est le karma.
Bravo, Fred.
C'est comme bien ceux répondu. Qui me détestent, ils finissent pas bien en général. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Il vaut mieux m'aimer.
Mais tout le monde t'aime ici, tu sais bien.
Hein. Oh, bah, c'est vrai, enfin, je sais.
Parfois, ça
non, mais il y a des fois des gens qui n'aiment pas.
Enfin, alors, voilà, ça veut pas dire qu'on l'aime pas.
Ah ben non, ah oui. Ben non, c'est
ah la fin. Ben non, on sait bien que Jonathan, on n'est pas toujours d'accord sur certains trucs. Mais sinon, si on était tous d'accord, ce serait d'un chiant.
Ben ouais. Ce serait pas l'after aussi, mon cher Fred.
Ben ouais, ce serait, tu vois. Parce que c'était que Nico Jamin, moi je suis toujours d'accord avec Nico par exemple.
Ah oui?
Quasiment tout le temps. Donc c'est bien d'avoir un Jonathan et un Kevin pour discréper, oui, comme on dit en espagnol, pour avoir donné des avis à
Val. Voilà, discuter.
Et discuter, exactement.
Voilà, discuter, pour discuter. Je fais la traduction parce que tout le monde n'est pas hispanophone, hein, ici, évidemment. Fred,
le Barça
a gagné 2-1 face à Retafe. C'est toujours un peu chiant, Retafe, hein. Jamais simple à négocier.
Ah bon, c'est dur, c'est l'équipe. Pour moi, c'est l'équipe, après le Real, c'est l'équipe la plus sûre de ce championnat. Ils n'ont pas volé leur 3e place. Et sincèrement, le Barça a fini, après avoir été malmené quand même pendant de longues minutes, hein, pendant cette rencontre, hein, c'est-à-dire que le Barça devant, bien entendu, ça marche devant, mais ça on le sait, mais c'est que derrière, on a eu un Barça qui est mené 2-0, qui après a pris un but de Angel. Alors, vous savez que le Barça, avec la blessure de Dembélé de 6 mois, au bout de 5 mois, on a le droit de demander un joker médical.
Ouais.
Donc le Barça pourrait recruter Angel, qui est l'attaquant remplaçant de cette équipe de Retafe et qui est entré, qui a mis un but magnifique, une super frappe, et qui finalement on a eu un Barça qui a même dû écouter un peu de siffler dans le public, parce que je pense que les gens, on a un peu marre de pas voir le Barça terminer bien ses matchs, aller à un quart d'heure de la fin en disant voilà, ça fait 3-0 et c'est plié, quoi. Ça fait quand même longtemps que le Barça n'a plus cette domination absolue où les matchs sont vite réglés. Ça reste une équipe fragile derrière. Alors ça va passer contre Naples, mais on a l'impression qu'il va falloir resserrer un peu plus les boulons.
Un petit mot sur Umtiti, Fred.
Oh, il a pas été.
Ah ouais, d'accord.
Oh, il était titulaire ce soir
parce que
l'anglais a été expulsé la semaine dernière, mais c'est plus du tout le Umtiti qui des 6 premiers mois à Barcelone où il était vraiment très fort. Sincèrement, enfin, je veux dire, c'est un joueur qui physiquement me paraît pas dans une forme extraordinaire, qui a des erreurs. Bah, rappelez-vous de Nabil Fekir la semaine dernière, le vent qui lui a mis sur le but que l'ancien Lyonnais a marqué avec le.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben c'est la blessure, non, qu'il a eu.
Ouais,
puis ouais, il y a choix, la Coupe du Monde aussi, je sais pas.
L'anglais qui a pris sa place.
Bah, rappelez-vous, la Coupe du Monde, il s'entraînait quasiment pas parce qu'il devait ménager son genou, quand même, il avait un problème. Il y a aussi un choix médical. Le Barça voulait qu'il s'opère rapidement. Lui n'a pas voulu. Il a fait plein de traitements conservatoires. Voilà, mais je trouve, moi, j'aime beaucoup plus l'anglais, même si l'anglais n'est pas un niveau extraordinaire. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que.
Il est plus propre.
Puis rappelez-vous que Umtiti a failli être vendu cet été. Hein.
Ouais, c'est vrai. Voilà, ça va peut-être mieux pour lui, non?
Oui, peut-être. Voilà. Mais pour revenir sur cette équipe du Barça, alors j'attends les phrases. Oui, Messi a fait une passe décisive.
Alors voilà, sublime. J'avais pensé là-dessus. On va dire qu'on fait une obsession, mais et pas spontanée.
Spontané, sublime. Bah, je pense qu'il a pas.
Griezmann.
C'est ça.
Du bourre. Je pense qu'il a pas dû voir que c'était Griezmann.
Mais c'est ça,
devant.
J'allais dire, en fait. C'est tellement spontané que je pense qu'il a fait. Oh merde, c'est pour Griezmann.
C'est de l'humour, les amis. C'est de l'humour. Oui, c'est pas la peine de m'insulter.
Mais c'est pas grave si on t'insulte. Allez.
C'est pas vous, hein, mais sur les réseaux.
Mais je sais bien.
Mais alors, moi, je suis ravi. Moi, je suis le premier à vouloir que quelqu'un que j'aime beaucoup ait. Parce que je l'ai bien connu ici en Espagne et parce que je suis français et que je veux un grand Griezmann pour l'Euro avec l'équipe de France, je rêve, je souhaite de tout mon cœur que ça marche pour Antoine. Simplement, oui, il a fait une belle passe, mais 7 mois ensemble, combien de passes décisives a donné Messi à Griezmann?
Ça fait combien là? 2?
2.
2.
C'est pas beaucoup. Hein.
Il en a mis 2 à Ansu Fati en un match, hein, il y a 15 jours.
Ouais. Et dans ce match contre Grenade, il avait fait, alors que Griezmann jouait en pointe, Messi à droite et Ansu Fati à gauche. C'est-à-dire que Griezmann et Messi sont tout à côté. Enfin, je veux dire, ça devrait être naturel. Messi avait fait 2 passes à Griezmann et il avait fait 3 passes à Ansu Fati. Bon, j'ai appris l'autre jour que l'agent d'Ansu Fati, c'est le frère de Messi. Ça peut aider aussi.
D'ailleurs, excellent papier, je le dis, hein, nos confrères de France Foot, hein, sur la relation Griezmann-Messi. Ouais. On apprend plein de choses et une petite phrase de Griezmann qui vont pas forcément arranger la relation. Pour dire également que Messi est pas forcément le seul responsable. Peut-être qu'il estime que Griezmann n'est pas le meilleur joueur avec qui gagner des titres. C'est ce qui ressort du papier de France Football.
C'est une phrase de en plus c'est un de mes amis, le directeur adjoint du journal Sport, journal de sport.
Qui dit ça, ouais.
Luis Mascaro, qui dit, mais de toute façon, il y a deux choses. La première, c'est que c'est une erreur de casting de la part du Barça.
C'est ça.
Et il remonte ça en disant, mais ils ont acheté Coutinho. C'est un joueur de la zone Messi. Ils ont acheté Dembélé. Même s'il est un peu plus excentré, c'est quand même quelqu'un qui, quand il repique, il est un peu dans la zone Messi. Puis surtout Griezmann, c'est un joueur dont t'as pas besoin le Barça, puisque dans cette zone-là, il entre dans l'espace
Schengen.
Exactement.
Ils ont les mêmes déplacements.
Exactement, donc c'est pas compatible. Et donc, pourquoi Messi? C'est pas uniquement parce qu'il est copain avec Neymar qu'il voulait qu'il revienne. C'est parce que Messi, de sa
crise complémentaire
de Neymar, est vraiment complémentaire et peut rapidement entrer au service de Messi. Donc voilà, la relation, elle est pas naturelle entre Griezmann et Messi.
Et Fred,
et moi, si les gens sont contents simplement parce qu'ils ont vu une passe décisive, aussi belle soit-elle, il faut prendre sur l'ensemble de cette relation. En plus, Griezmann, il vit en Espagne, hein, depuis longtemps, il était formé en Espagne. Donc, il découvre pas une langue, il découvre pas un championnat. Mais voilà, moi, quand j'aurais pas vu, quand dans un match, je verrais Griezmann recevoir deux ou trois ballons de Messi et qu'un gamin de 16 ans reçoit 11, bon, ben, voilà, tant qu'il y aura pas cet équilibre-là, voilà, et je trouve que Messi, je sais pas si vous avez vu ces images aussi de, un moment, c'était le dernier match, enfin, c'était le match contre Grenade, on voit, il y a De Jong qui marque, tu as Messi qui court pour embrasser De Jong, Griezmann s'approche pour l'embrasser, il l'embrasse rapidement, puis tout de suite il va se jeter dans les bras de De Jong. C'est-à-dire que même là, les Espagnols ont fait leur chou gras à la télé. C'est une réalité qu'il n'y a pas un feeling.
Voilà, après, on les a vus quand même dans les bras l'un de l'autre régulièrement saison, tu vois. Alors c'est peut-être fin ou alors.
Non, mais vous savez ce qui se passe aussi. C'est que vous les avez vu ces images, c'est le FC Barcelone qui est très fort sur les réseaux sociaux, et c'est pour moi c'est aussi significatif, c'est-à-dire que les comptes Twitter, Instagram du Barça inondent de photos où on voit Messi et Griezmann ensemble. Voilà, ça veut dire quelque chose. Bon après, est-ce que disait Luis Mascaro, le grand journaliste de sport aussi dans le dossier des copains de France Foot, c'est que aussi Messi considère que Griezmann manque trop de buts et que il voit en
c'est le cas cet après-midi aussi. Hein. Il a une belle occasion d'un doublé. Il a tiré au-dessus.
Même un triplé, hein, parce qu'il a deux belles occasions. Il est sur son pied droit. D'ailleurs, il en rigole un petit peu après. Mais je peux vous dire qu'on en aurait beaucoup parlé si Retafe, comme ça semblait pouvoir se dessiner, avait égalisé à deux partout. Donc voilà, c'est une année très difficile pour Griezmann. Donc voilà, dire que c'est la relation absolue et que tout va bien. Non, et je pense que au-delà d'un feeling personnel qu'il peut y avoir ou pas avoir. C'est qu'il y a vraiment cette question de que Griezmann est peut-être une erreur de casting pour le Barça parce qu'il arrive dans un espace qui est déjà occupé par le meilleur du monde.
Et la question, on verra, c'est l'obsession de Griezmann à vouloir s'imposer sur la durée ou pas, justement à partir peut-être dès l'été prochain ou dans un an et demi. Le Real Madrid, Fred. Real Celta Vigo. Demain, hein, le Real pour récupérer sa première place avec un événement. Retour d'Eden Hazard dans le groupe.
Oui.
13 matchs seulement cette saison TCC pour lui.
Oui, et merci Meunier, 26 novembre dernier, cette faute, ce tacle inutile dans un match qui n'avait plus d'enjeu comptable, puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'était assez sérieux ce qu'il a eu quand même. Il y avait un petit truc osseux quand même, quoi. Donc il y avait une petite fissure. Donc, mais Zizou n'a surtout pas voulu prendre de risque avec Hazard, pour une raison très simple. C'est que même sans Hazard, ça marchait bien le Real. Voilà, donc je dis pas que le Real n'a pas besoin de Hazard, loin de ça. Mais c'est qu'il n'y avait pas d'urgence à le faire revenir le plus tôt possible, quitte à prendre un petit risque, parce que le Real marche bien sans Hazard. Donc là, il y a un plus qui arrive.
Fred, juste, je te coupe deux secondes, mais tu parlais d'erreur de casting pour Griezmann. Est-ce que, en étant un peu provocateur, est-ce que Hazard, ce serait pas aussi une petite erreur de casting, en tout cas pour l'instant?
Non, parce qu'il a sa place.
Voilà, ouais, parce que Zidane, mais Zidane aime bien quand même les gens qui défendent.
C'est un joueur extraordinaire.
Ouais, mais il joue qu'avec le ballon, Hazard.
Oui, mais sincèrement, j'en ai discuté par exemple en off avec Karim Benzema, qui dit mais Eden, il apporte la clarté.
Ok.
Tu vois, donc Zidane a compensé l'absence de Hazard avec quoi? En mettant Vinicius, en mettant Lucas Vazquez avec Karim, en mettant Bale parfois, en mettant Rodrigo. C'est-à-dire que vous regardez, il n'y a jamais le même 11. En général, il fait entre 5 et 8 changements entre deux matchs.
Mais est-ce que cette équipe n'est pas plus équilibrée? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec Hazard, quand tu n'as pas le ballon, tu joues à 10. Hein. Ça, c'est clair.
Oui, mais maintenant, justement, c'est une question intéressante, mais ils ont vécu ça du temps de Cristiano Ronaldo, tu sais, hein, ça a bien marché.
Oui, oui.
Et surtout, là, maintenant, il y a Casemiro et Valverde au milieu de terrain. Donc, et en plus, ce qui va se passer de plus en plus souvent, c'est que le 4-3-3 habituel de la grande période avec les trois Ligues des Champions de suite, déjà Zidane, il aimait bien jouer en 4-4-2 quand il pouvait, mais là, très souvent, ça va être... Et comme Bale n'a plus forcément sa place dans cette équipe, ça va être très souvent un 4-4-2. Okay. C'est-à-dire avec en losange, avec Kroos, parfois avec Modric ou parfois avec Isco. Donc il y a pas d'alternative. Mais devant, Hazard et Benzema semblent intouchables. Okay. Mais sincèrement, Hazard, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter... Tu sais, quand t'as les petits jeunes comme Rodrigo, comme Vinicius, qui sont parfois un petit peu nerveux dans la surface, entre Benzema et Hazard, mais ça va jouer tout seul, quoi. Donc
oui,
c'est
vrai aussi.
Et donc au sein du staff technique du Real, c'est notre recrutement du mois de janvier.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Fred, et surtout c'est une des qualités principales de Zidane, c'est que je pense qu'il aura aucun mal à l'intégrer parce qu'il est pas du tout dogmatique dans ses mises en place, quoi.
Ah non, mais pas du tout. De toute façon, non seulement. Il y a un jeu ici entre collègues en Espagne, c'est qui va jouer et dans quel système il va jouer. C'est-à-dire que c'est l'inconnu total jusqu'à une heure avant le match quand on voit quand arrive le 11. Mais c'est ça la force aussi du Real Madrid, et c'est la raison pourquoi je pense que le Real Madrid a beaucoup plus de chances de remporter la Liga, parce que le Real a 23-24 joueurs compétitifs.
Oui, il y a une profondeur.
Le Barça en a 15. C'est pour ça qu'ils vont devoir recruter un joueur
radical, homogène.
Bah, ils ont dû vendre beaucoup de joueurs pour de rester
Fred,
l'argent.
Reste avec nous.
Oui.
J'accueille Julien Laurence avec toi, avec nous.
Ah,
bonsoir Julien.
Salut à tous.
T'as vu l'émotion?
Comment ça
là
va?
C'est presque un orgasme là. Fred.
C'est beau. C'est beau, hein. Je suis double champion d'Europe, donc c'est normal.
Ouais, mais l'année prochaine, alors, c'est qui? C'est Southampton qui va prendre la place de City en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai fait l'United. Oh, c'est bien. Oh,
les gars, autre chose, on vous chauffer tous les deux rapidement avant de libérer Fred. Vous vous affrontez mardi soir, les gars, là.
Ah oui, avec l'Atlético.
Bien sûr.
Les amis, on va savoir si les Anglais étaient un feu de paille ou si l'Espagne reprend.
J'ai bien peur que Liverpool roule sur la.
Je suis pas sûr que Liverpool, Julien, ait peur de l'Atlético de Madrid. Vas-y.
Je suis pas sûr. Non, mais là-dessus, par rapport à Julien, je te passe la balle. Mais je suis pas sûr que Klopp était très content non plus de tomber contre l'Atlético.
Évidemment. Personne n'est content de tomber contre l'Atlético.
Vas-y, Julien.
Non, mais c'est pas non plus l'Atlético d'il y a 3 ans.
Non, Liverpool est archi favori. Simplement, ils ont fait un bon match hier encore à Valence, 2-2, en étant beaucoup plus volontaire. Non, Liverpool va se qualifier, mais je pense que ça sera pas réglé au match aller mardi soir au Wanda à Madrid.
Julien, tu restes avec nous. Moi, je remercie Fred Hermel. Bonsoir.
Merci, Fredo.
Bonne nuit, les amis. À bientôt.
Tu viens pas à Paris?
Si, je serai à l'Atlético mardi et mercredi, je serai à Paris.
Allez, à très vite.
Bonne
Fred,
nuit.
Excellente soirée.
Salut,
bonne nuit à toi.
Ciao, ciao.
Julien, tu restes avec nous. On marque une pause. On revient dans un instant avec Julien pour évoquer l'actu en Angleterre à Liverpool. Bon, je sais même plus quoi dire. Il y a plus de superlatif. On va se projeter sur la Ligue des Champions pour Liverpool, hein. Bien sûr, ça devient presque la priorité pour les Reds maintenant que le championnat est plié. Julien est avec nous. Simone sera avec nous également pour parler de l'Atalanta, qui joue en Ligue des Champions également, un huitième de finale très bientôt. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamard.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit et nous allons réaccueillir Julien Laurence avant d'accueillir Simone Rovera. Salut Julien.
Rebonsoir.
Salut Julien. Je ne sais pas comment préparer les pages foot anglais, surtout quand Liverpool joue le samedi. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas quoi faire. Liverpool a gagné face à Norwich. 17e succès consécutif, 76 points sur 78 possibles, 58 points d'écart avec l'adversaire du jour. Le 20e Norwich, 58 points et 25 points d'avance sur City. On parlera de City dans un instant. Que dire avant, surtout, hein, maintenant l'intérêt c'est de se projeter sur la Ligue des Champions, avant ce match face à l'Atlético de Madrid mardi?
Alors la bonne nouvelle c'est que Sadio Mané est revenu de blessure et plutôt bien revenu même, puisqu'il était, même s'il était remplaçant au coup d'envoi, il est entré en jeu, il a marqué un superbe but d'ailleurs avec un contrôle assez extraordinaire.
Ah oui.
Aérien, pied droit et une demi-volée pied gauche dans la foulée, assez exceptionnelle. Liverpool qui est un petit peu comme souvent cette saison, hein, souvent dans le samedi soir avec toi on en parle, où ils sont pas très bons, ils sont moyens, mais ils ont cette force mentale et cette des confiance chueurs en eux qui fait qu'ils savent qu'à un moment ils vont gagner, ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre au fond.
Et
c'était un peu comme ça aujourd'hui où Norwich a bien joué aujourd'hui, mais encore effectivement t'as raison, encore une clean sheet pour Liverpool. Et puis surtout cette foi inébranlable en eux-mêmes, qui vont à un moment avoir une occasion et qui vont la transformer. Et ça a été le cas aujourd'hui en fin de match. Et voilà, c'est ce que Liverpool nous a habitué cette saison. Ils sont capables d'élever leur niveau de jeu, ils l'ont fait aussi. Mais quand ils sont pas forcément dans un très très bon jour, c'est pas grave, ils arrivent quand même à gagner.
La question, on en parlait tout à l'heure, hein, notamment pendant le RMC Football Show, quand on parlait du PSG, qui a fait tourner avec 6 remplaçants titulaires aujourd'hui face à Amiens. Liverpool, c'est pas la même question qu'on se pose. On met l'équipe à 4 jours d'un match de Ligue des Champions. Pourquoi, Julien? C'est une tradition, c'est comme ça? C'est Klopp?
Non, alors n'oublie pas non plus que nous on a eu la mini trêve hivernale en fait, donc oui. Liverpool n'avait pas joué non plus le week-end dernier, donc c'était aussi important je pense pour les titulaires habituels de reprendre un petit peu de temps de jeu. C'est pas comme s'ils avaient joué il y a 3 jours non plus. Là, je pense qu'il aurait fait, s'il avait eu un match il y a 3 jours et un autre match dans 3 jours, il aurait peut-être plus fait tourner. Là, il n'y avait pas vraiment besoin de faire tourner. Il a fait entrer en jeu les joueurs dont il voulait faire entrer en jeu, comme Fabinho par exemple à l'heure de jeu pour faire reposer un peu Wijnaldum, comme Sadio Mané, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui lui aussi est entré à l'heure de jeu à la place de Oxlade Chamberlain. Donc ça a très très bien fonctionné pour Klopp. Il n'a pas eu besoin de faire des changements plus tôt puisqu'ils contrôlaient plutôt bien la rencontre. Donc c'était un samedi plutôt sympa pour Liverpool et pour Jurgen Klopp avant le match de l'Atlético mardi soir.
Voilà pour Liverpool mardi soir. L'autre dossier, c'est City. Évidemment, t'as pas eu hier. On en a parlé, nous. On a essayé de décrypter, notamment le cas City. Je rappelle, exclu toute compétition européenne pendant 2 saisons, 2021-2022, 2022-2023. Déjà, comment on voit ça? Comment on réagit en Angleterre?
Ah, c'était une bombe atomique. C'était la bombe atomique hier. D'ailleurs, aujourd'hui, Liverpool, on en parle nous dans l'émission, mais personne n'en parle ici ou quasiment pas. Un, parce que le championnat est déjà plié, mais surtout deux, parce qu'on continue encore de parler de Manchester City et que va faire Pep Guardiola et que va faire Kevin De Bruyne. Et quand est-ce qu'on saura, ils vont faire appel de toute façon devant le TAS, ça c'est sûr. On devrait être fixé, je pense, au mois de juin, peut-être juillet. Mais d'ici là, les rumeurs vont continuer. Aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, ce soir, on dit que Brendan Rodgers et Pochettino seraient les favoris en cas de départ de Pep Guardiola. On se demande aussi où certains joueurs pourraient aller et si City va devoir vendre, parce que le manque à gagner va être assez incroyable. Pas simplement sur les recettes télé et les recettes sportives de la Ligue des Champions. La saison dernière, je crois qu'ils ont gagné 93 millions d'euros, Manchester City. Donc c'est déjà une énorme perte, mais si en plus tu considères l'absence de revenus sur les places vendues dans les matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y aura plus de matchs de Ligue des Champions, plus de matchs européens, ce que tu pourrais perdre en termes de sponsors aussi, des sponsors qui, par exemple, il y a beaucoup de contrats sponsors où t'as des clauses à l'intérieur, s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, et ben tu perds de l'argent par rapport à ces contrats de sponsoring. Donc ce serait un manque à gagner assez incroyable pour un club comme City qui ensuite devrait forcément dans ses comptes.
Mais est-ce que ce ne serait pas la fin d'une époque, d'un cycle? Est-ce que, en allant plus loin encore, ça ne pourrait pas signer le départ, eh bien, des dirigeants émiratis?
Peut-être, si, peut-être. Le problème qu'on a ici en Angleterre, c'est qu'on ne sait pas exactement encore la part de responsabilité d'Abu Dhabi, des propriétaires. Parce que aujourd'hui, et c'est là où les Anglais ont énormément de mal avec ce scandale, c'est que Manchester City a triché. C'est pas comme le PSG, par exemple, ou l'AC Milan. C'est une vraie triche. Ça veut dire qu'à un moment, quand on a fait les comptes, quelqu'un, volontairement, a inscrit les mauvaises sommes.
C'est ça.
C'est un ensemble, un club. Alors peu importe combien de personnes étaient au courant, une personne, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 500 personnes, on ne sait pas encore. Mais ces gens-là ont foncièrement triché. Ils ont exprès trafiqué les comptes.
Julien,
et ça ici en Angleterre, ça a vraiment du mal à passer.
Ouais, Julien, même si on ne sait pas encore ce qui s'est passé, même si on n'est pas encore complètement sûr que avec cet appel, ce ne sera pas annulé, mais quand même. Moi, je pense
mal embarqué là, parce que le tribunal arbitral du sport là-dessus, quand il y a triche avérée, ça va être compliqué.
Cette histoire, elle marque quand même un point d'arrêt et les limites de ce football moderne, ou en tout cas de cette structure de club où voilà, un État rachète un club pour se faire de la pub, pour plein de choses qui sont plus politiques que sportives, etc. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu vois quand même les limites de ce système-là, parce que Manchester City, qui était un club sans leur faire offense, un club moyen anglais avant
club
l'arrivée.
Club historique, mais moyen.
Oui, un club, mais bon, un club qui était comme Everton, le deuxième grand club.
Le club des prolétaires.
Voilà. Après, avec l'arrivée de cette famille, ça a redoré ce blason, ça a fait plein de choses, mais au final, le football, alors c'est pas qu'on, je pense quand même que le fair play financier, ça a du bon, parce que même si des fois il y a quelques dérives, mais il y a quand même du bon, parce que certes, ça avantage les grands clubs, on va dire les historiques, le Bayern, le Milan, et encore bon le Milan, ça les a pas forcément avantagés toujours, mais
tu vois ce que je veux dire. Eux aussi, hein.
Il y a que ça ramène quand même les choses à des valeurs qui sont un peu plus cohérentes avec le football qu'on aime, ou en tout cas celui qu'on a aimé.
Ça reconnecte l'économie du football à l'économie réelle.
Vas-y Julien, conclue.
T'as tout à fait raison Kevin, mais ils étaient pas obligés de faire ça. Même avec tout l'argent du monde qu'ils ont, ils n'étaient pas obligés de tricher non plus. Ils auraient pu prendre leur temps un peu, ça aurait mis un petit peu plus de temps. Mais à un moment, personne les a forcés à tricher. et à trafiquer les comptes. Et juste pour finir, là où ça pourrait être encore plus grave pour eux, c'est que la Première Ligue maintenant, bah aussi vont commencer à regarder les comptes que Manchester City pendant ces années de 2012 à 2016 ont transmis à la Première Ligue. Et peut-être que le titre de 2014, celui qu'ils remportent devant Liverpool, bah peut-être que celui-là, à un moment, ça pourrait être limite pour eux. Et c'est ouais. Et c'est là le problème, c'est qu'à mon avis, on n'a pas terminé avec
ouais,
ce scandale.
Ouais, effectivement.
Ça paraît incroyable quand même.
Merci Julien.
Salut Julien.
Salut
merci
Julien.
Les gars,
excellent
bonne fin
soir à toi. Ciao. Très vite, bien sûr, la semaine de Ligue des Champions à venir. Simone Reverra est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Dans une magnifique ville italienne, salut, il est à Bergame, Simone. Ah oui, bonsoir, Simone.
Écoute, je suis dans la chaise 10, du rang 10 du stade de l'Atalanta, dans la tribune centrale, où j'ai vu un magnifique spectacle pour
t'as
moi.
T'as vu la victoire de l'Atalanta Bergame, 2-1, face à la Roma. L'Atalanta 4e, hein, bon, voilà, qui va sûrement conserver sa 4e
avec
place.
Avec 6 points d'avance sur la
c'est
Roma.
C'est hyper important.
Et deux confrontations directes. Donc, on peut dire virtuellement 7 points d'avance sur la Roma dans la route pour la Ligue des Champions. Pour moi, ce soir, j'ai vu l'équipe qui jouera la prochaine Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas photo en ce moment entre les deux équipes.
Et puis, l'Atalanta qui jouera également en Ligue des Champions la 8e de finale face à Valence.
Oui, équipe quand même plutôt titulaire qui utilisait ouais. Gasperini. Comme j'ai dit, c'était presque une demi-finale pour la Ligue des Champions, ces matchs face à la Roma. Ils ont doublé leur avantage. Mais surtout, Gasperini quand même a plusieurs changements à faire, peut-être en Ligue des Champions. On verra, on a vu en Zapata qu'il n'était pas très en jambes ce soir. Muriel qui est rentré bien sur la fin. Pasalic qui rentre, marque son 5e but de la saison après 14 secondes depuis son entrée en jeu. C'est une Atalanta qui, je dis souvent, a plein de ressources, même sur les banques de touche. La ressource principale, c'est les banques de touche, c'est Gianpiero Gasperini, qui à la fin du match a été ovationné par les publics plus que n'importe quel autre joueur. C'est vraiment une fusion totale entre cette ville et l'homme de banque de touche. Et si mercredi soir à San Siro, on verra la même Atalanta avec une petite erreur à moins en défense, parce que la Rome a fait une tir cadrée sur un passe en retraite raté d'un joueur de l'Atalanta et un mauvais contrôle de son coéquipier Palomino. Sans erreur, cet Atalanta, pour moi, c'est injouable.
Injouable. On verra, hein, mais ils ont une vraie
pour une équipe qu'on balance. Ouais, hein, pour une équipe qu'on balance. Après,
s'il y a Liverpool. T'as totalement raison.
Merci.
Ouais, non, mais quand il y a rien à dire, t'as raison. Ils sont extraordinaires.
Mais c'est quoi ce. Attends, Gasperini, on le connaît, hein, il est arrivé au club en 2016, tout ça, il n'avait pas une grande expérience avant d'arriver à l'Atalanta.
Il a entraîné l'Inter.
Bah écoute, je me souviens qu'en 2009-2010, Gasperini, il était l'entraîneur du Genoa qui arrive 4e à égalité des points avec la Fiorentina et il rate la qualification en Ligue des Champions
c'est pour
la
confrontation
directe.
Bah oui, mais c'était compliqué après Mourinho et tout.
Ouais mais l'Inter, il arrive au mauvais moment dans un club qui était plus grand que lui, trop plus grand que lui, en fin cycle, et lui arrivait avec l'idée de tout changer. Il n'a pas eu le temps de mettre en place ça et peut-être n'a pas eu le bon discours avec un certain vestiaire. C'est pas la même chose de parler en vestiaire des stars que parler en vestiaire comme celui de l'Atalanta.
Je rappelle que Kevin pense que l'Atalanta sera l'Ajax de la saison 2019-2020.
Je leur souhaite en tout cas. Ce serait beau, ce serait la victoire du jeu.
Bon, déjà, tu as une vraie chance de passer en quart de finale, après tout est possible. Hein. Ce serait super intéressant parce que c'est un jeu résolument offensif aussi, Simone.
C'est
hein.
Régalade à voir.
Beaucoup, parce que on en parle parce que beaucoup vont découvrir l'Atalanta les prochaines semaines en Ligue des Champions. Hein. On est sur un jeu très porté vers l'avant, chatoyant.
Il y a des joueurs dingues. Le petit Papou Gomez, là, c'est vraiment un putain de joueur.
Juste, Simone, pour aller dans le sens de Nico, j'ai vu passer sur Twitter que l'Atalanta, cette saison, a gagné 45 points après avoir été mené au score.
C'est énorme.
Pour dire que.
Alors, 45, ça me semble beaucoup. J'ai l'impression qu'il a gagné les 45%.
Ah oui, c'est plus de ça.
Peut-être ouais. 45%. Alors.
45%. J'ai l'impression que c'est ça. C'est énorme, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire que l'Atalanta, même la semaine dernière à Florence, est menée, mais après, ils n'échangent rien. C'est pas qu'ils sont prêts par l'impatience de chercher le but. Ils concèdent des occasions parce que quand tu as un jeu toujours direct vers l'avant, tu peux laisser des espaces, tu peux faire des erreurs même en cherchant une passe verticale, tu peux te tromper, mais tu te rates une fois et sur un match, tu fais 10 fois des bons passes verticales, 15 fois, 50 fois, tu arrives dans la surface avec un milieu, avec un défenseur, avec un avant-centre, avec Papou Gomez qui c'est un homme à tout terrain. Okay, et quand tu arrives plein de fois dans la surface, tu arrives à marquer.
Je connais. Merci Simone, excellent soir. Merci Jonathan, merci Kevin.
Ciao.
À très vite, Bergame Valence, ce sera mercredi soir. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, les
à très vite. Salut.
RMC. L'After Foot.